dites au revoir à Molly qui s'en va
discrètement. Mais non, il s'en va discrètement.
Le problème. Je suis désolé hein, de
pouvoir rester. Je vous dis qu'il s'en va discrètement.
Ça va être
enregistré.
Merci.
Bon,
c'est bien, Molly.
Bon,
très
bien.
Merci.
Et puis à
bientôt. Hein.
Donc nous accueillons ce soir Madame Esparza, vous êtes laïque missionnaire de la charité, et vous, le Père Pignel, vous êtes le conseiller spirituel des laïcs missionnaires de la charité, et vous venez nous parler donc de la sainteté de Mère Teresa. Merci beaucoup.
Bonsoir. Merci pour votre accueil et les gâteaux.
Merci de prendre du temps. Je sais qu'il y en a qui étudient grandement et qui ont ce désir de prendre du temps pour sans doute nourrir aussi leur esprit et leur cœur. Donc merci de prendre ce temps.
Voilà. Je ne sais pas si... Je suppose que vous avez tous plus ou moins entendu parler de Mère Teresa. Est-ce que c'est le cas? Oui? Bon. Donc, vous devez savoir qu'elle était appelée la mère des pauvres. Si vous ne m'entendez pas, vous levez la main.
Dans le fond, vous entendez?
Non. Ok.
Remarquez, si tu veux le rendre, c'est sympa. Il reste des passes devant aussi. Vous avez sans rire. Il y a plein de places devant.
Donc oui, je disais qu'elle était appelée la mère des pauvres, la sainte de Calcutta, et son visage ridé et entouré d'un sari blanc avec un liseré bleu et a fait le tour du monde. Mais elle n'est pas forcément très connue dans tous les aspects de sa vie, ni pourquoi elle était sainte. Donc, je vais parcourir rapidement les éléments principaux de sa vie. Ensuite, nous verrons les racines spirituelles de la fécondité de cette vie. Et ensuite, comme nous parlons de la sainteté, nous verrons ce qu'elle enseignait à ses sœurs au niveau de la sainteté, à ses sœurs, à ses frères, hein, et comment elle-même l'a vécu. Voilà, c'est pour que vous ayez un peu le plan en tête. Donc, déjà, rapidement, qui était-elle? Agnès Gongsa, qui était son nom de naissance. Gongsa signifie « bouton de fleurs ». Elle est née dans une famille, d'une famille albanaise en Macédoine du Nord, et elle est née le 26 août 1910. Voilà. Elle était la cinquième enfant de la famille, mais elle ne connut que sa sœur aînée et son frère aîné. Donc, Aga, sa sœur, et son frère Lazare, qui avait 2 ans de plus qu'elle. Et les 2 autres enfants de la famille sont morts après la naissance, ce qui fait que ses parents l'ont fait baptiser, elle qui était la cinquième, dès le lendemain de sa naissance. Donc elle a reçu la grâce du baptême de suite. Son frère Lazare a parlé d'elle, et quand il l'évoquait, il disait que c'était une enfant jolie, souriante. Elle était joyeuse, elle chantait beaucoup, elle faisait partie d'une chorale. Et dès petite, elle avait un grand sens de l'organisation. Elle vivait dans une famille aisée. Ils étaient sans trop de soucis jusqu'à l'âge de 9 ans où son père est décédé prématurément. Et la famille a alors basculé dans la et dans la tristesse et dans la misère. Sa mère, Drama, qui était une femme croyante, droite, généreuse, a dû subvenir seule aux besoins matériels de la famille. Donc, pour cela, elle a ouvert un magasin de tissus et de broderies et à la partie éducative de la famille. Et ce fut pour Agnès la première école de charité, parce que Drama, sa mère, avait d'une part l'habitude d'aider beaucoup les pauvres, surtout les enfants qu'elle amenait souvent chez elle. Elle leur a enseigné, elle a enseigné à ses enfants à ne pas juger. Mère Teresa, plus tard, racontera qu'un soir, elle était avec son frère et sa sœur dans la cuisine en train de parler sur les voisins. Je ne sais pas ce qu'elle disait, mais vous imaginez. Et Drama, sa mère, a éteint la lumière en disant qu'elle n'allait pas payer l'électricité pour éclairer leur commérage. Et donc, Mère Teresa a retenu cette leçon et elle dira plus tard « Le temps passé à juger les autres est du temps perdu pour aimer. » Et chaque jour, Drama priait aussi avec ses enfants, tous les jours. Il faisait cette prière en famille et Mère Teresa était également très attachée à cette prière en famille. Et elle répétait tout le temps ce dicton, « La famille qui prie ensemble demeure ensemble. » À 12 ans, elle va recevoir l'appel d'être missionnaire en Inde. Donc, je vous ai dit qu'elle était née en Macédoine du Nord en 1910. Vous imaginez qu'il n'y avait pas la télé, pas les avions, pas d'Internet. Alors pourquoi avoir l'idée à 12 ans de devenir missionnaire en Inde? En fait, elle faisait partie d'une confrérie qui réunissait les jeunes de sa paroisse et ils étaient guidés par un prêtre jésuite qui leur a parlé des missions, et entre autres des missions en Inde, et c'est là où elle a senti cet appel. Et quand elle a eu 18 ans, elle a quitté sa famille, elle a quitté son pays. Elle ne reverra jamais ni sa mère, ni sa sœur. Elle le reverra uniquement son frère, beaucoup plus tard. Et elle est partie dans l'ordre des sœurs de Lorette, qui est l'Institut de la Bienheureuse Vierge Marie. Et elle avait choisi cette congrégation parce qu'elle savait que cette congrégation envoyait des sœurs en mission. Elle va, donc elle a 18 ans, la congrégation est en Irlande et elle va prendre son nom de religion et s'appeler Sœur Marie-Thérésa. Et Marie-Thérésa pour Thérèse de Lisieux. Donc elle va passer une première année en Irlande pour apprendre l'anglais de 18 à 19 ans. Et à 19 ans, après 3 mois de voyage en bateau, elle est arrivée en 1929 en Inde. Elle va d'abord rester 2 ans à Darjeeling. Darjeeling, c'est au pied de l'Himalaya. Et elle sera en formation. Et ensuite, elle va être envoyée à Calcutta comme enseignante et directrice. Et elle va y rester pendant plus de 15 ans. Elle était dans une école, l'école Sainte-Marie de Calcutta, elle était dans la section Bengali, et c'était une école pour jeunes filles de la bonne société. Et à cette époque, elle écrira « Je suis professeure et j'aime ce travail. Je suis aussi directrice de l'école, et ici, tout le monde me veut du bien. » Et beaucoup plus tard, parlant de ces années, elle dira « C'était une époque merveilleuse. Je n'oublierai jamais ce que Lorette a fait pour moi et comment, par Lorette, le Seigneur m'a préparée pour la vie que je mène. » Donc, elle est restée 20 ans chez les sœurs de Lorette, presque 20 ans, Et à 36 ans, sa vie va basculer. C'était le 10 septembre 1946 et elle recevra ce qu'elle appellera plus tard l'appel dans l'appel. Jésus va lui demander ce jour-là, de façon claire et précise, de quitter les sœurs de Lorette pour se mettre au service des plus pauvres d'entre les pauvres. Mais on vous en reparlera après. Le 17 août 1948, donc 2 ans plus tard, elle va quitter la sécurité conventuelle, elle va quitter sa congrégation, revêtir le sari blanc qu'on lui connaît, et elle va se retrouver toute seule dehors dans cette immense ville de Calcutta, sans abri, sans engagement, sans garantie, sans sécurité. Et elle dira plus tard au père Joly, « Quitter Loreto a été pour moi le plus grand sacrifice, la chose la plus difficile que je n'ai jamais faite. » Donc en sortant du couvent à Calcutta, elle a commencé par une formation au rudiment de la médecine et puis elle est partie seule dans les bidonvilles de Calcutta. Premier bidonville était à Mundichi. Et elle a débuté par en faisant ce qu'elle savait faire, c'est-à-dire enseigner. Et elle a commencé à apprendre aux enfants à lire, à écrire avec un bâton et en écrivant sur le sol. Et puis elle leur a appris des notions d'hygiène et elle avait les enfants. Donc voilà, c'était des débuts un peu, enfin, tout pauvres. Et le 7 octobre 1950, en la fête de Notre-Dame du Rosaire, Mère Teresa, qui était donc sortie de sa congrégation mais qui n'en avait pas encore fondé une, a reçu de Rome l'autorisation de créer une nouvelle congrégation de sœurs destinée à être au service des plus pauvres d'entre les pauvres. Et c'était la naissance des missionnaires de la charité. Et quand elle a commencé, en fait, ses anciennes élèves, quelques-unes de ses anciennes élèves sont venues la rejoindre. Et quand elle a eu l'autorisation de Rome de fonder la congrégation, il y avait avec elle 12 sœurs. Le père Sébastien, qui la connaissait bien, qui l'a beaucoup côtoyé, écrira sur ce début, sur ses débuts. Il a dit « Tout a commencé dans ce qui paraît, aux yeux humains, comme une ville misérable et même abandonnée de Dieu. Calcutta, emplie de pauvres, vivant et mourant dans la rue, comme des animaux. » Mère Teresa affronta courageusement cet océan de misère avec les armes de la foi, de l'espérance et de la charité. Et la forte conviction que le Seigneur, qui l'avait appelé à accomplir son œuvre, lui en donnerait les moyens. Donc là, ça a été toute la congrégation des missionnaires de la charité. Avec Mère Teresa et des sœurs qui sont arrivées petit à petit, l'essor a été très grand et très rapide. Elle a ouvert des écoles, organisé des distributions alimentaires, fondé des lieux d'accueil pour les malades, les personnes handicapées, les lépreux, les mourants, les enfants abandonnés, les sans-abri, etc. Tout au long de sa vie, elle a reçu de nombreux prix, dont le prix Nobel en 1979. Et elle mourra à Calcutta le 5 septembre 1997, où lui sera rendu un hommage national. Et donc à sa mort, 50 ans après la formation des missionnaires de la charité, elle a laissé... plus de 700 maisons d'accueil. Il y avait plus de 4500 membres dans les missionnaires de la charité qui étaient répartis dans plus de 130 pays. Elle a fondé en fait des sœurs actives et des sœurs contemplatives, des frères actifs, des frères contemplatifs, des pères, une branche diocésaine, et puis pour les laïcs, les serviteurs souffrants, qui étaient des personnes qui offraient leur souffrance et qui offrent toujours leur souffrance pour chaque missionnaire, des laïcs missionnaires de la charité, comme moi, dont je fais partie. Donc ce sont des personnes laïques qui vivent de la spiritualité de la congrégation en faisant des vœux annuels, des coopérateurs, et il y a eu des milliers de volontaires qui sont venus aider cette œuvre. Elle a été béatifiée en 2003 par Saint Jean-Paul II et elle a été canonisée le 4 septembre 2017 par le pape François, qui la présenta comme une généreuse dispensatrice de la divine miséricorde. Voilà pour la partie un peu chronologique et replacer Mère Teresa dans son histoire. Maintenant, nous allons nous pencher sur les racines de sa vie spirituelle, qui ont permis, en fait, une si grande fécondité. Alors, nous allons voir trois choses qui ont été primordiales dans sa vie. Ça a été un vœu privé qu'elle a fait, puis donc l'appel dans l'appel dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis les ténèbres, puisqu'elle a vécu une nuit de la foi pendant presque 50 ans. Alors, premièrement, le vœu privé. Quand elle était chez les sœurs de Lorette, c'était déjà une sœur très équilibrée. C'était une professeure très aimée de ses élèves, une directrice efficace. Elle assurait ce travail dans un contexte politique et social difficile. Il y avait la famine au Bengale. Voilà, c'était une époque compliquée. Et pendant tout ce temps, elle avait une vie déjà de prière extrêmement intense. Et cette vie de prière l'a amenée en avril 1942, avec l'accord de son père spirituel, de faire un vœu privé à Dieu. Le vœu, sous peine de péché mortel, je sais qu'on ne parle plus beaucoup de péché mortel, mais c'était sous peine de péché mortel, de ne jamais rien lui refuser, de ne jamais rien refuser à Dieu sous peine de péché mortel. Et par ce vœu, en fait, elle a fait l'offrande de sa volonté. Ce vœu est extrêmement important parce que c'était le moteur de son zèle à répondre à l'amour de Dieu, et c'est à l'origine de tous les oui qu'elle a donné au Seigneur tout au long de sa vie. Vous pouvez rajouter.
Une de ses caractéristiques de la sainteté, c'est que justement, c'était une femme très volontaire, très décidée. Et quand elle parle de la sainteté, pas simplement pour elle, mais pour les autres, elle dit qu'il faut décider la sainteté. Et ce vœu, effectivement, alors qu'il vient dans une vie spirituelle déjà très, très forte, vraisemblablement d'après les quelques écrits qu'on a gardés de cette première vie, si je peux dire, à Notre-Dame de Lorette, on voit qu'elle a déjà vécu ce que Saint Jean de la Croix appelle les purifications passives des sens ou des purifications passives de l'esprit. On pourrait y revenir si vous voulez. Mais elle est déjà dans un don d'elle-même très très important. Et effectivement, elle fait ce vœu privé qui est extrêmement exigeant, ne rien jamais refuser à Dieu.
Alors, lorsque le 10 septembre 1946, elle reçoit l'appel dans l'appel, il faut avoir dans l'esprit qu'elle avait donc déjà fait ce vœu auparavant. Alors, comment s'est passé cet appel? En fait, si vous avez vu des films sur Mère Teresa, on la voit avec les pauvres, généralement, qui tendent les mains et qui lui disent « Venez nous aider, venez nous aider ». C'est absolument pas... C'est peut-être cinématographique, mais c'est absolument pas la réalité. En fait, elle était dans le train, effectivement, entre Calcutta et Darjeeling. Elle allait à Darjeeling pour sa retraite annuelle et puis elle était également un peu souffrante. Et donc, dans le train, elle a dit qu'elle avait entendu clairement et directement, de façon claire et précise, la voix de Jésus. Donc, c'était une motion intérieure parce qu'elle était la seule à l'entendre. Ceux qui étaient autour d'elle n'ont rien entendu. Et c'est la voix de Jésus lui demandait de quitter les sœurs de Lorette pour se mettre au service des plus pauvres d'entre les pauvres. C'était donc le début des locutions qu'elle a eues pendant tous ces 8 jours de retraite. Et ensuite, pendant des mois, elle a continué à entendre la voix de Jésus et elle a entendu le cri de Jésus en croix qui lui disait « J'ai soif ». D'ailleurs, « J'ai soif », c'est dans toutes les chapelles des missionnaires de la charité de par le monde. Et elle a compris que Jésus l'appelait parce qu'il avait soif des âmes. Et à ce moment-là, Jésus lui a donné et sa mission et sa vocation. Donc il lui a demandé, sa mission était de fonder les missionnaires de la charité. Voilà. Alors, dans le train, il ne lui a pas donné tous les détails, mais comme il va y avoir beaucoup de locutions intérieures pendant des mois, il va tout lui enseigner, en fait, exactement ce qu'elle doit faire pour... où s'installer, comment s'habiller, voilà, tout a été donné. Donc ça, c'était sa mission et sa vocation. La vocation, il lui a demandé d'aimer, de souffrir pour sauver des âmes. Et donc, au cours de cette période mystique, elle a eu ses locutions et elle a eu également des visions. Elle a eu 3 visions très importantes qu'elle a écrites et relatées qu'elle a écrites à son père spirituel. Elle avait demandé que toutes ses lettres soient brûlées et elles n'ont pas été brûlées. C'est pour ça qu'on connaît aujourd'hui et ses locutions et ses visions parce qu'elle n'en parlait jamais. Oui, allez-y.
De fait, elle a dû parler à la fois à son père spirituel et aussi à un évêque qui est l'évêque de Calcutta de l'époque. Elle décrit, parce que évidemment cet appel est vraiment étonnant, et donc elle le dit, elle le réécrit plusieurs fois. Comme disait Isabelle, elle a demandé plus, après coup que ses lettres soient brûlées, tout ça, heureusement, et certaines ont été brûlées, d'autres non. Et donc on a des textes et je crois que c'est important quand même d'entendre quelques extraits, on ne peut pas tout lire, mais là c'est là, donc c'est parmi les locutions de Jésus, voilà ce qu'elle écrit, ce qu'elle rapporte. Donc c'est Jésus qui parle, c'est un jour pendant la Sainte Communion, j'ai entendu la même voix très distinctement, je veux des religieuses indiennes, des victimes de mon amour qui seraient Marie et Marthe, qui seraient si étroitement unies à moi qu'elles rayonneraient mon amour sur les âmes. Je veux des religieuses libres, revêtues de ma pauvreté de la croix. Je veux des religieuses obéissantes, revêtues de mon obéissance de la croix. Je veux des religieuses pleines d'amour, revêtues de la charité de la croix. Refuseras-tu de faire cela pour moi ? Un autre jour, elle rapporte, « Tu es devenue mon épouse par amour de moi. Tu es venue en Inde pour moi. La soif que tu avais pour les âmes t'a amenée jusque-là. As-tu peur de faire un pas de plus pour ton époux ? Pour moi, pour les âmes, ta générosité s'est-elle refroidie? Est-ce que je viens en second pour toi? Tu n'es pas morte pour les âmes. C'est pour cela que tu ne te soucies pas de ce qui leur arrive. Tu as peur de perdre ta vocation, de devenir laïque, de manquer de persévérance? Non, ta vocation est d'aimer, de souffrir, de sauver des âmes. Et c'est en faisant ce pas que tu réaliseras le désir de mon cœur pour toi. Et à un moment donné, elle dit, je vais faire trop long, mais j'ai essayé de persuader notre Seigneur que je m'efforcerai de devenir une sœur de Lorette très fervente et sainte, une vraie victime ici dans cette vocation. Mais la réponse est revenue encore une fois très claire. Je veux des sœurs missionnaires de la charité indienne, qui seraient mon feu d'amour au milieu des très pauvres, des malades, des mourants, des petits-enfants des rues, les pauvres que je veux que tu les amènes à moi. Je veux t'utiliser pour ma gloire. Refuseras-tu ?
Et le refuseras-tu lui rappeler ce qu'elle avait promis auparavant, puisqu'elle avait promis de ne jamais rien lui refuser. Au tout début, elle a eu peur d'être trompée par le diable, en fait. Elle a eu peur de la pauvreté. Elle disait qu'elle aimait bien le confort, que la pauvreté lui faisait peur. Et puis elle a eu peur de ne pas être à la hauteur de cette mission. Mais donc Jésus lui a demandé plusieurs fois, refuseras-tu ? Et Marie aussi, je ne sais pas si vous avez l'extrait, Marie aussi, dans une des visions, lui a demandé, lui a dit, mon fils te l'a demandé. Elle a eu une vision où elle voyait les pauvres qui l'appelaient et qui demandaient de l'aide. Et donc, Marie lui a dit, ton fils te l'a demandé, les pauvres te l'ont demandé, moi je te l'ai demandé, refuseras-tu ? Et comme elle était fidèle à son vœu privé, elle a dit oui, mais elle était toujours dans l'obéissance à l'Église, donc elle a attendu la décision de l'Église. Et donc il y a eu un long discernement entre elle, son père spirituel, l'évêque de Calcutta, jusqu'à l'autorisation de l'Église pour qu'elle puisse quitter sa communauté et donc partir vivre auprès des plus pauvres. Elle écrira « Tu m'as tiré du couvent où j'étais utile. Maintenant, mène-moi où tu le désires. Toi, mon Dieu, il n'y a plus que toi. J'ai confiance en ton appel, en ton inspiration. Tu ne me décevras pas. » Donc, elle a vécu là deux années, une vie mystique intense. Et à partir du moment où elle va commencer avec les missionnaires de la charité, là, elle va rentrer dans les ténèbres. Et qui vont se poursuivre jusqu'à sa mort, en fait. Après avoir vécu cette communion sensible avec Jésus et avec Marie, elle va vivre après d'une foi pure, c'est-à-dire une foi complètement privée de consolation sensible, privée du sentiment d'être aimée de Jésus, et même du sentiment d'aimer Jésus. Et en fait, elle était si proche de Jésus qu'elle était comme aveuglée par l'amour de Dieu qui consumait son cœur, qui rayonnait à travers elle. Toutes les personnes qui la rencontraient le disaient qu'elle rayonnait de l'amour de Dieu, mais elle, intérieurement, ne le sentait plus. Et donc, grâce à son père spirituel, elle a compris que sa vocation était d'être associée physiquement à la vie des pauvres et spirituellement en communion avec les hommes de son temps qui vivent une pauvreté spirituelle. Et donc, c'est grâce à cette union de Jésus en croix, en fait, elle était comme Jésus sur la croix, qu'elle a pu vivre cette communion complète avec les pauvres. Et donc, ce furent 50 ans de ténèbres. Et elle dira de la sainteté, en parlant d'elle, elle a dit, si je deviens une sainte, je m'absenterai tout le temps du paradis pour me rendre sur la terre, allumer la lumière dans le cœur de ceux qui sont dans l'obscurité. Parce qu'elle savait ce que c'était.
J'aurais juste rajouté que ceci, on l'a appris à la fin de sa vie, c'est-à-dire que, on avait parlé bien sûr à ses différents pères spirituels, mais personne, y compris les religieuses les plus proches de la congrégation, ne connaissait cette obscurité mystique, hein, en fait, dans son cœur pendant sa vie. Tout le monde qui la voyait là, disait, mais c'est impressionnant l'intensité de sa prière, la ferveur qui doit être dans son cœur, ce qui n'était pas faux, en un sens. Mais sensiblement, elle ne sentait rien. Et même parfois, elle se croyait damnée. Enfin, vous voyez, elle pensait être en enfer. Donc ça, c'est l'épreuve spirituelle. Et au début, elle le considérait à cause de ses propres péchés. Et il a fallu des dizaines d'années, à la fois grâce à ce père spirituel, mais aussi par l'action de Dieu, évidemment, pour qu'elle comprenne que c'était en fait une participation à la pauvreté, pas simplement, comme disait Isabelle, matérielle, mais aussi spirituelle de l'humanité, qui est parfois dans les ténèbres. Et donc une sorte d'échange, un mystère de substitution, ce qu'on appelle « je prends les ténèbres pour que vous ayez la lumière ».
Alors, nous allons voir maintenant ce qu'enseignait Mère Teresa au sujet de la sainteté. Donc, nous allons voir ce qu'elle disait, et puis nous verrons après ce qu'elle a vécu. Je vois des personnes qui prennent des notes. Si vous voulez mes notes après, je peux vous les donner. Si ça peut vous éviter d'écrire. Alors, donc la sainteté pour Mère Teresa, elle disait aux laïcs missionnaires de la charité, je vais, avec la bénédiction de Dieu, être saint. Elle leur disait de dire ça, je vais, avec la bénédiction de Dieu, être saint. Parce qu'elle disait, la sainteté n'est pas le luxe d'un petit nombre, c'est un simple devoir pour chacun de nous. Il faut le vouloir, disait-elle. Notre sainteté dépend, après la grâce de Dieu, de notre volonté. Je veux. Nous ne pouvons pas, en effet, prendre la décision de devenir saint sans un grand effort de renoncement, sans tentation, sans lutte, sans persécution et sacrifice de tout genre. Ce sont ses paroles. Et donc, Mère Teresa a donné des pistes. Et elle disait, si nous désirons sérieusement la sainteté, trois choses sont nécessaires. La prière, le renoncement à soi-même et la charité. Alors nous allons voir la prière. Quasiment tout ce que je vous dis, ce sont ces paroles. J'ai repris ces paroles. Hein, donc, voilà. Donc la prière, elle a écrit aux collaborateurs, faites entrer cet amour, cette sainteté dans votre vie même, dans votre maison, chez vos voisins, dans votre pays et dans le monde entier. Pour cela, donc pour faire rentrer la sainteté, pour cela, il nous faut prier. Nous devons ressentir le besoin de prier. Au sujet du renoncement à soi-même, elle disait, la sainteté, c'est faire la volonté de Dieu avec un grand sourire. Accepter tout ce que Jésus nous envoie et offrir tout ce qu'il nous enlève avec le sourire, telle est la sainteté. Et elle enseignait à ses sœurs l'obéissance de l'amour à l'image de Jésus qui a obéi et qui a dit « Je suis venue faire la volonté de mon Père. » Lorsque l'on renonce à soi-même, on renonce à sa propre volonté. Et elle disait à ses sœurs, que c'était très simple de renoncer à sa propre volonté. Elle leur disait, nous n'avons qu'à dire oui, nous n'avons pas à nous casser la tête. Mais pour avoir un cœur pur, nous devons prier, ces deux choses vont ensemble, et nous deviendrons saintes. Voilà. Pour la charité, elle disait, je veux que vous vous donniez la peine d'être vraiment sainte, non pas dans les grandes choses, car nous n'avons pas de grandes choses à faire, mais plus petite est la chose, plus grand est l'amour. Notre vocation n'est pas de travailler avec les lépreux ou les mourants. Non, notre vocation est d'appartenir à Jésus. Quoi que nous fassions, nous le faisons pour quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Elle répétait toujours que l'évangile pouvait se résumer sur les doigts d'une main. « You did it to me », c'est à moi que vous l'avez fait. Et donc... Elle disait que tout ce qu'elle faisait, que ses sœurs faisaient aux pauvres, c'est à Jésus qu'elle le faisait. Et elle leur disait, nous sommes saints parce que nous touchons le corps du Christ 24 heures par jour. Donc elle demandait à ses sœurs d'être unies au Christ. Et donc elle leur disait, Jésus veut que nous soyons saints. La sainteté n'a rien d'extraordinaire. C'est un état de vie naturel pour une religieuse d'être sainte, car Jésus, mon époux, est saint. L'Évangile dit « Soyez saints comme votre Père céleste est saint ». Si mon cœur entier est complètement donné à Jésus, alors nous devons être saintes. Je lui appartiens, je lui ai consacré ma vie, donc je dois être sainte. Et grandir dans la ressemblance au Christ, veut dire grandir en sainteté. Et elle leur disait d'être unis au Christ jusque dans la pauvreté, en disant, si vous voulez devenir saint, devenez pauvre. La pauvreté volontaire consiste à être pauvre en esprit et à choisir la pauvreté du Christ, ce qui rend libre pour aimer. Et d'être unis au Christ aussi dans l'humilité. Elle a écrit à ses frères en 79 « Vous devez avoir assez d'amour les uns pour les autres pour savoir pardonner et assez d'humilité pour oublier le passé. Car l'orgueil n'a pas sa place dans la sainteté. L'orgueil est une chose diabolique. Comment devenons-nous humbles ? En acceptant les humiliations et de rajouter « Écoutez, ça peut vous servir. Chaque fois que l'occasion d'être humilié se présente, saisissez-la. » Alors, comment elle-même vivait la sainteté ? Si vous voulez rajouter.
C'est la question du temps.
C'est la question du temps. Nous avons jusqu'à quelle heure ?
Peut-être encore 5 minutes, puis peut-être après, on pourra poser des questions. Ça serait bien si on peut...
D'accord. La sainteté de Mère Teresa. Au niveau de la prière, Mère Teresa priait sans cesse. Elle était toujours la première à la chapelle. Elle travaillait jusqu'à 1h, 2h du matin. Elle était à la chapelle à 4h30 tous les matins. Et elle disait à ses sœurs, « Allez à la chapelle, Jésus vous attend. » Donc ça, c'était son quotidien. Elle tenait à tout prix à la messe quotidienne, à la Sainte Communion, à l'adoration, même quand elle a été gravement malade, hospitalisée. Chaque fois qu'on lui demandait « Mais Mère Teresa, pouvez-vous nous dire d'où vous tirez votre énergie ?» Elle désignait le tabernacle. La dernière année de sa vie, elle a été hospitalisée, elle venait d'être intubée. Et le médecin hindou, d'ailleurs, qui s'occupait d'elle, a vu un prêtre qui lui rendait visite à l'hôpital et il lui a dit « Père, allez chez vous chercher cette boîte pour mère. » Alors le père, étonné, a dit bah, « Quelle boîte ? Une boîte à chaussures ?» Il dit « Non, non, cette boîte, ce temple qu'ils apportent est mère dans la chambre. Quand cette boîte est là, mère est toute calme. Elle ne fait que regarder, regarder et regarder encore cette boîte. Et en fait, c'était le tabernacle. Et comme son corps avait besoin de soins, son âme avait besoin d'être toujours unie à Jésus. Elle avait aussi un très grand amour pour Marie. Elle priait sans cesse en égrenant son chapelet tout au long de la journée et en disant des mémorare. Elle écrivait dans ses lettres toujours « Soyez seulement tout à Jésus par Marie ». Et Mère Teresa avait une foi confiante en Dieu et en Notre-Dame. Et elle prenait le ciel d'assaut par la prière, en fait. Par exemple, celui qui l'a hébergé juste à sa sortie de Lorette se souvient qu'un jour, elle avait besoin de médicaments. Il raconte en disant « Un jour, nous sommes entrés dans un grand magasin avec une liste de médicaments dont elle avait besoin. Le patron était occupé, la mère montra sa liste et demanda qu'on les lui donne gratuitement. « Vous vous trompez d'adresse, madame, » répondit le patron. La mère et moi, nous nous sommes assis. Elle se mit à dire son rosaire. Quand elle eut terminé, le patron lui dit « Tenez, voilà 3 paquets, ce sont vos médicaments. » Prenez, c'est un cadeau de la maison. Et on peut rappeler aussi que quand Mère Teresa était à la recherche de son actuelle maison mère, elle avait promis à Notre-Dame 100 000 mémorare. Il n'y avait que 12 sœurs à l'époque, ou un peu plus, et donc elle s'est aperçue qu'elles n'arriveraient jamais à dire leur 100 000. Et elle a appris la prière aux enfants, même des enfants non chrétiens. Elle a obtenu la maison qu'elle désirait. Et donc, devant tout obstacle, elle disait, on va faire une rapide neuvaine à Notre-Dame. Donc, elle disait 9 mémorare, et elle ajoutait toujours un dixième pour remercier par avance, parce qu'elle savait qu'elle obtiendrait. Le renoncement à elle-même ou l'abandon total de sa volonté. Mère Teresa, toute sa vie, a dit oui quand elle a quitté sa famille, quand elle a quitté Lorette. Et puis ensuite, elle a toujours dit oui à la volonté de Dieu et elle a toujours été obéissante et à l'Église et aux événements. Le Père Joly a dit d'elle... Dieu utilise cette femme avec ses qualités et ses défauts pour accomplir son œuvre, parce qu'elle lui est parfaitement soumise. À tout ce qu'il lui souffle ou lui ordonne, elle obéit sans poser de questions. Elle ne pense pas à elle-même, mais à lui. Et elle agit avec une confiance si absolue en sa puissance que rien ne lui paraît impossible. Voilà. Et juste un petit mot, quand elle attachait ses sandales aux pieds, tous les jours, elle disait « C'est ma libre volonté, cher Jésus, que de vous suivre partout où vous voudrez aller, quoi qu'il m'en coûte, et purement par amour pour vous. » Alors la charité, vous savez que Mère Teresa a vécu une charité héroïque, et elle disait « Plus une personne nous rebute, plus nous devons avoir la foi pour nous mettre à son service. Cette foi qui permet de reconnaître Jésus dans le plus pauvre des pauvres. Un jour, Mère Teresa a trouvé un homme dans la rue dont les plaies étaient dévorées par les vers. Elle l'amena au mouroir, elle s'occupa de lui, elle le lava et elle l'accompagna jusqu'à la mort. Et elle dit, comme il est terrible de ne pas être accepté, soigné, aimé. Et en fait, comme elle adorait Jésus dans le Saint-Sacrement, elle servait Jésus dans les pauvres. Au mouroir, elle enseignait que les corps brisés des pauvres devaient être traités avec le même respect que le prêtre touche le corps du Christ sur l'autel. Et elle disait toujours, nous ne sommes pas des travailleurs sociaux, nous sommes des contemplatives au cœur du monde. Nous sommes 24 heures par jour avec Jésus. Et donc cette vie de prière intense et de renoncement à elle-même, de charité, était donc le fruit de son union à Dieu. Et grandir dans la ressemblance au Christ veut dire grandir en sainteté. La sainteté, c'est l'union, c'est ce qu'elle disait. Je passe. Alors qu'elle vivait dans les ténèbres, elle a écrit à son père spirituel : Priez pour moi afin que dans ces ténèbres, je n'allume pas ma propre lumière. De toute ma volonté, je ne veux que Jésus. Depuis l'enfance, le cœur de Jésus a été mon premier amour. Alors, les fruits de cette union au Christ, nous allons juste en voir trois pour finir à peu près dans les temps. C'est l'humilité jusqu'à l'humiliation, l'offrande de la souffrance et la joie. Alors, l'humilité jusqu'à l'humiliation, au père Van Exem, qui a aidé Mère Teresa depuis le début, lorsqu'on lui a demandé ce qui l'a le plus frappé en Mère Teresa, il a répondu, à part sa petitesse, sa confiance en Dieu. Et en fait, sa petitesse, son sentiment de n'être rien du tout, ont frappé tous ceux qui l'ont approché et tous ceux qui ont travaillé à ses côtés. Elle répétait à tout bout de champ, « Je ne suis rien, il est tout. Je ne fais rien de moi-même, c'est lui qui agit. Je me sens comme un crayon dans la main de Dieu. Dieu écrit grâce à nous, et quelle que soit l'imperfection de l'instrument, il écrit de manière admirable. » En fait, elle vivait dans l'humilité, reconnaissant que tout ce qui est bon en elle venait de Dieu, et tout ce qu'elle faisait de bien était un don de Dieu. Elle parlait souvent de l'humilité de Dieu et elle disait « Dieu est vraiment humble, il daigne œuvrer à travers nous. » Et le père Sébastien se souvient que Mère Teresa, lorsqu'elle avait par exemple un peu de retard à un rendez-vous, elle manquait jamais de s'excuser, même si ce n'était pas de sa faute. Et face à ceux qui la critiquaient ou qui l'humiliaient, elle n'a jamais témoigné ni irritation ni colère, mais toujours elle priait et elle disait « Lui aussi est un des visages de Jésus. » Celui qui l'a humilié, lui aussi est un des visages de Jésus. L'offrande de la souffrance. Juste un mot sur la souffrance pour vous montrer comment Mère Teresa la vivait. Elle a écrit un jour à son amie Hélène, « Le chagrin, la souffrance sont tout simplement un baiser de Jésus, un signe que vous êtes arrivé si près de Jésus qu'il peut vous embrasser. » Je crois que c'est la plus belle définition de la souffrance. Soyons donc heureux lorsque Jésus s'abaisse pour nous embrasser. J'espère que nous sommes assez prêts pour qu'il puisse le faire. Et en fait, elle vivait cette union avec Jésus en croix. Et malgré cette union avec Jésus en croix et cette souffrance qu'elle vivait, elle irradiait de joie. C'était la croix où était mêlée la joie. La joie de Mère Teresa, en fait, était l'expression de cette présence aimante de Dieu en elle. Elle a écrit dans la Constitution des Sœurs, « La joie est prière. » La joie est amour. La joie est un filet d'amour qui nous sert à attraper des âmes. Et elle disait que rien ne nous fasse souffrir ou pleurer au point d'en oublier la joie de la résurrection. Elle rayonnait donc l'amour et la joie de Dieu. Et on va passer. Et pour finir, je vous propose de lire la prière que Mère Teresa disait chaque jour et qui correspond vraiment à ce qu'elle a vécu. Cher Jésus, aidez-moi à répandre votre parfum où que j'aille. Inondez mon âme de votre esprit et de votre vie. pénétrer et posséder tout mon être si complètement que ma vie ne soit qu'un rayonnement de la vôtre. Brillez à travers moi et soyez tellement en moi que chaque âme que je rencontre puisse sentir votre présence en mon âme. Qu'en levant les yeux, ce ne soit plus moi que l'on voit, mais seulement Jésus. Restez avec moi et je commencerai alors à briller comme vous brillez, à briller jusqu'à en être une lumière pour les autres. La lumière, ô Jésus, sera toute de vous, aucunement de moi. Ce sera vous qui brillerez sur les autres à travers moi. Que je vous loue ainsi de la manière que vous préférez en brillant sur ceux qui m'entourent. Que je vous prêche sans prêcher, non par des mots, mais par l'exemple, par la force d'attraction, l'influence bienveillante de ce que je fais, l'évidente plénitude de l'amour que mon cœur vous porte. Amen.
Merci. Emmanuel.
Je voulais savoir en quoi consistait la vocation et l'engagement des volontaires missionnaires de la charité.
Des volontaires les volontaires, ce sont les personnes qui viennent aider concrètement dans l'apostolat des sœurs. Les laïcs, on peut aller aider, on est invité à aller aider d'ailleurs, mais on s'engage à vivre de la spiritualité de Mère Teresa, en premier lieu dans notre lieu de vie et selon notre état de vie. Moi, je suis mariée, mère de famille, donc ça commence à la maison. Nous faisons les mêmes vœux que les sœurs, donc... un vœu de pauvreté, donc en étant mariée, c'est un vœu de détachement des biens matériels, en fait, vœu de pauvreté, vœu d'obéissance à l'Église, à la volonté de Dieu, forcément, obéissance, chasteté conjugale, étant mariée. La chasteté conjugale, souvent on me demande, parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est. En fait, tout simplement, si vous connaissez la sexualité selon Jean-Paul II, c'est ça. Voilà, c'est pas plus ni moins que ce que demande l'Église au niveau de la sexualité. C'est, la chasteté, c'est ne pas utiliser l'autre pour son plaisir, en fait, dans la relation conjugale. Et un vœu d'aide gratuite et de tout cœur aux plus pauvres d'entre les pauvres. Et quand on est laïque, les pauvres commencent dans la famille. Et ensuite dans son quartier et dans son lieu de vie. Et après, on s'engage dans des apostolats où on apporte une aide aux plus pauvres. Alors, soit avec les sœurs, si... dans la mesure du possible, ou dans d'autres types d'apostolat, si on est plus loin de chez les sœurs. Et que, voilà.
Merci. Marie.
La nuit de la foi qu'a connue Mère Teresa, est-ce que c'est semblable au doute ou aussi différent?
Non, c'est, je ne sais pas ce que vous entendez par doute, mais non, c'est... Donc tout son cœur est tourné vers le Seigneur, tout son désir est vraiment... Voilà, elle ne fait que poser des actes de foi, des actes de charité, des actes d'espérance. Donc toutes les vertus sont au sommet de ce qu'on peut vivre. Mais intérieurement, en fait, elle ne ressent rien. Elle ne, entre guillemets, elle ne voit rien, voire quelquefois l'inverse. Elle a l'impression d'être damnée, comme je disais tout à l'heure, alors qu'en fait elle est sainte. Et donc, c'est... Voilà. Du coup, il y a... Elle peut pas s'appuyer sur elle-même et sur ses lumières intérieures. Mais à la fois, elle est pas bête. Hein, donc, elle voit bien les fruits, quand même. Elle a un sens du discernement, évidemment. Et puis, elle est portée par Jésus. Et puis, elle est ses pères spirituels qui l'encouragent. Donc, elle sait bien que c'est pas... voilà.
Comme elle a vécu un moment très mystique, je pense qu'elle a vécu une relation tellement proche et tellement intense, qu'ensuite le fait de ne plus ressentir ces consolations, cette consolation de voir, d'entendre Jésus, c'était pour elle... c'était l'enfer, en fait. C'est quand on aime quelqu'un et quand on en est séparé, elle n'entendait plus, donc elle avait l'impression que Jésus ne l'aimait plus, tout en sachant que elle, toute sa volonté, tout était... elle aimait Jésus, ça c'est sûr. Par sa tête, enfin... intellectuellement, elle savait qu'elle était aimée, mais elle ne ressentait plus rien. Je ne sais pas si...
Ouais, ça, c'est...
Voilà, c'est... on n'était pas dans son cœur.
Ouais, on n'était pas dans son cœur. Et...
On est un peu sur les sommets de la mystique, c'est un phénomène repérable. Hein. Déjà, je suis le premier théoricien de la mystique, hein, voir de Nice et tous ces gens-là, mais qui a pris beaucoup, beaucoup d'importance. Et peut-être qu'il y a plus de gens... Enfin, je ne sais pas, mais non... Avec Saint Jean de la Croix, c'est lui le grand théoricien. Alors c'est le tout, vous voyez, le tout, ça s'oppose à la foi. La nuit de la foi, c'est vraiment une nuit de la foi, c'est une modalité du croire, en réalité, la nuit de la foi, alors, qui suppose déjà l'exercice des vertus, des prières, une vie de prière extrêmement dense, toute chose qui part. Bon, moi, je suis peut-être susceptible de goûter, mais certainement pas d'entrer dans la nuit de la foi aujourd'hui. Ça me fascine. Mais en gros, c'est que la foi, c'est un acte spirituel, et dans la nuit de la foi, on est à... C'est comme si on posait cet acte vraiment dans les frontières, à l'intérieur même des frontières de cet acte spirituel. Tout ce qui est d'ordre affectif, la mémoire ou la sensibilité, tout ça est mis de côté. Donc c'est un acte très... mais qui est très nu. Et comme l'être humain est composé d'une âme et d'un corps, c'est une grande épreuve. C'est une grande épreuve de tenir à Dieu uniquement, pas par un acte, mais uniquement spirituel. Une grande épreuve. Mais enfin, si on en croit ceux qui sont passés par là, c'est vraiment la conquête. C'est la conquête du sommet qui est la charité, en fait. Hein. C'est la nuit de la foi. C'est la charité. C'est une autre manière de dire la charité incandescente de celui qui est lié à Dieu. Ce qui est très, ce qui est assez caractéristique de Mère Teresa, c'est qu'elle a vécu, d'abord, c'est la longueur, et puis même si elle n'est pas tout à fait la seule comme ça, quand même, le fait de se sentir rejeté par le Christ, ça c'est quand même un peu singulier. C'est pas uniquement qu'on ne sent rien, c'est qu'elle se sent rejetée.
Et c'est pour ça que, en fait, il y a Sainte Thérèse de Lisieux, dont elle porte le prénom, a connu ça pendant un an et demi à peu près.
Ce qui est déjà
pas mal. Mais elle, c'est pendant presque 50 ans, 48 ans.
Ah, mais pour être clair, c'est un des sous.
Il y a eu, je crois, un peu de ciel dévoilé à un moment donné, je ne sais plus, mais pas beaucoup.
Les deux fois.
Mais c'est effectivement c'est un peu enfin il y a chez Saint Jean de la Croix il y a la nuit des sens et la nuit de l'esprit qui sont des purifications encore hein. Et là c'est encore autre chose, c'est-à-dire que c'est je crois que c'est vraiment une identité, enfin c'est la parole de Jésus, enfin mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné, c'est proprement ça. Mais quand Jésus dit mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné, il dit mon Dieu, donc il s'adresse à Dieu. Mais pourquoi m'as-tu abandonné ? Donc, Mère Teresa, elle va toujours dire Jésus, Jésus, Jésus. Pourquoi tu m'as-tu abandonné ? Elle ne dit pas ça exactement comme ça, mais c'est l'équivalent. Donc, le vrai saint, il continue à dire Jésus.
On va peut-être. Sauf si vous avez une citation.
Là-dessus, Seigneur mon Dieu, qui suis-je pour que vous me rejetiez ? L'enfant de votre amour est maintenant devenu comme la plus haïe, celle que vous avez rejetée, telle une indésirable, pas aimée. J'appelle, je m'accroche, je veux, et il n'y a personne pour me répondre. Personne à qui me raccrocher, non personne. Seules les ténèbres sont si sombres, et je suis seul, indésirable, abandonné. La solitude du cœur qui veut de l'amour est insoutenable. Même au plus profond, tout au fond, il n'y a rien d'autre que le vide et l'obscurité. Mon Dieu, quelle est douloureuse cette souffrance inconnue. Cela fait sans cesse, cela fait mal sans cesse. Et vous avez entendu, hein, mon Dieu. Okay. Ça reste une prière.
Mais après, elle offre.
Oui, la révolution.
Oui. Après, elle dira que si ça permet d'amener la lumière aux pauvres spirituellement, elle est prête à vivre toute son éternité comme ça. Donc, sa charité était absolument brûlante. Oui, elle a offert ses ténèbres en disant, voilà, même si c'est pour toute l'éternité, si c'est ce que tu veux pour moi et que ça sert aux autres, je l'offre.
Et comme vous le disiez tout à l'heure, si jamais je deviens sainte, je serai certainement une sainte des ténèbres. Je serai continuellement absent du ciel pour allumer la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres sur terre.
Allez, on va peut-être conclure par les conclus. Je ne sais pas si vous avez encore un peu de temps pour prier avec vous. On va se mettre dans la salle à côté. Priez-vous
davantage dans cette salle, dans le bâtiment religieux.
Vous récupérez vos notes.
Merci.